Chapitre 5. Canon, paix, silence et chagrin. La matinée du lundi 3 avril promettait une journée de printemps quasi parfaite. L'air était frais et humide après les pluies de la nuit, mais le soleil commençait à chauffer et laissait prévoir des températures de 20 degrés ou plus. Dans les rues, les arbres verdissaient, les fleurs de cerisier et de cornouiller s'épanouissaient et les parterres se couvraient de couleurs. James et Holmes, qui attendaient sur le trottoir devant la pension de Madame Stevens, virent arriver Adams dans un magnifique landau, capote rabattue, attelé à deux grands et beaux chevaux. Un postillon sauta du siège avant et ouvrit la demi-portière pour leur permettre de monter. Ils s'assirent face à Adams, qui les observait en souriant, appuyé des deux mains au pommeau de sa canne. « Je suis ravi que vous ayez accepté de m'accompagner là-bas aujourd'hui, » leur dit-il, puis s'adressant au cocher, « Simon !» Demi-tour vers Lafayette Square, je vous prie. » Holmes échangea un regard avec James. Lafayette Square n'était qu'à quelques rues de là, mais pour quelle raison Adams voudrait-il les ramener chez lui ou chez Hay? Ils ne s'arrêtèrent pas à Lafayette Square. Arrivé à la place verdoyante, le cocher continua, le bruit des solides sabots se réverbérant sur les bâtiments qui l'allongeaient. Le gazon était magnifique. Holmes jeta un coup d'œil à la statue équestre d'Andrew Jackson qui se dressait au centre de l'espace arboré. Remarquant l'intérêt du détective, Adams prit la parole. « Quand Clover, ma femme, parlait de cette statue, elle disait toujours « Jackson sur son cheval à bascule ». Elle n'avait pas totalement tort. C'est la première statue en bronze coulée en Amérique et la première statue équestre dont le cheval se cabre. Hélas, le sculpteur, un certain Clark Mills, n'avait jamais vu de statue équestre de sa vie, et ça se voit. » Holmes sourit, mais remarqua le bref regard étonné de Henry James. Adams venait encore de parler de sa femme, lui qui ne le faisait jamais. « J'ai demandé à Simon de repasser par ici avant d'aller au cimetière de Rock Creek Park, » continua Adams. « Parce que je ne savais pas si Hay vous avait raconté l'histoire des hôtels particuliers qui donnent sur la place, monsieur Holmes. Cela pourrait intéresser un homme de votre profession. »
« Je ne connais l'histoire que de la maison double que vous avez fait construire avec Monsieur Hay. »«
Tenez, celle qui est étroite là-bas. » Adams désignait discrètement une maison du bout de sa canne, la soulevant à peine plus haut que le bord de la portière. « Elle a été louée au général George McClellan pendant la guerre de sécession. » John Hay raconte qu'à l'âge de 23 ans, il a suivi un soir le président Lincoln chez le général qui aimait se faire appeler le petit Bonaparte. McClellan était sorti. Lincoln et Hay se sont installés au salon pour l'attendre. Presque une heure plus tard, le petit général est rentré chez lui. Petit en taille seulement, je vous assure, car McClellan se sentait l'envergure d'un dictateur et ne se gênait pas pour appeler Lincoln le premier gorille. Il vit que Lincoln l'attendait, mais monta directement à l'étage. Une demi-heure s'est écoulée, si bien que Lincoln a fini par demander au valet quand le général McClellan allait redescendre. « Mais le général s'est couché, monsieur, » a répondu le valet.
« Incroyable !»
s'exclama Henry James. Adams sourit. « C'est exactement ce que Hay a dit au président Lincoln tandis qu'il rentrait à pied à la Maison-Blanche dans la nuit et sous la pluie. Il trouvait impardonnable qu'on traite aussi cavalièrement un président des États-Unis. » Et savez-vous ce que Lincoln a répondu? « Je lui tiendrai son cheval si cela pouvait l'aider à nous faire gagner cette guerre. » « Fascinant, » commenta Holmes. « Même si je ne vois pas bien le rapport avec mon métier. Hein, »« Pas dans ce cas, » reconnut Adams. « Mais ici ?» La canne indiquait un autre hôtel particulier à quelques portes de l'autre. C'est ici que vivait le colonel Henry Rathbone, qui a été poignardé par John Wilkes Booth au Théâtre Ford la nuit de l'assassinat du président. Adams s'interrompit et regarda Holmes. « Je me disais que cela pourrait vous intéresser, monsieur Holmes, puisque vous vous souciez des attentats. »
« Le colonel a-t-il survécu à ses blessures ?» demanda Holmes.
« Oui, oui, il s'est remis. » Le colonel Rathbone a été blessé en se jetant sur Booth quand il a vu l'acteur viser la nuque du président. Mais Booth était armé d'une dague en plus de son pistolet, et le criminel a atteint Rathbone au bras et à la tête avant de sauter de la loge sur la scène et de hurler son mélodramatique « Sic semper tyrannis ».
Il me semble avoir lu quelque part que le colonel Rathbone se reprochait de n'avoir pas empêché Booth d'agir.
Absolument.
Ce pauvre Rathbone a guéri physiquement, mais il ne s'est jamais remis mentalement de n'avoir pas pu sauver le président. Il y a 10 ans, lorsqu'il était consul des États-Unis en Allemagne, le colonel a tué sa femme, Clara, en lui donnant de multiples coups de poignard et par balle aussi. Il aurait aussi tué leurs 3 enfants si quelqu'un n'était pas intervenu à temps. Il a raconté à la police qu'il était innocent et que le meurtrier se cachait avec ses complices derrière les tableaux accrochés au mur.
Qu'est-il devenu? Il a été enfermé dans un asile d'aliénés à Hildesheim, en Allemagne.
La canne noire se souleva de nouveau.
Cette maison en briques a appartenu au secrétaire d'État William Seward, qui, la nuit de l'assassinat de Lincoln, a été attaqué dans son lit par un autre homme, un géant psychologiquement instable du nom de Lewis Payne. Payne a obtenu qu'on le laisse monter voir Seward, pratiquement au moment où le président s'écroulait au théâtre Ford, en prétextant qu'il apportait des médicaments pour le patient et qu'il devait les lui remettre en main propre.
Seward était malade, interrogea Holmes.
Il avait été victime peu de temps auparavant d'un grave accident de voiture. Il avait eu la mâchoire brisée et on lui avait immobilisé la tête avec un appareillage métallique.
Payne a poignardé le fils de Seward, puis s'est jeté comme un diable sur le lit du pauvre invalide en brandissant un énorme couteau. Il l'a frappé à de multiples reprises au visage, au cou, à la poitrine et dans le bras, et a continué à donner des coups même quand Seward a basculé dans l'étroit espace entre son lit et le mur. Seward a été sauvé par l'épaisseur de ses pansements, ses plâtres et son attelle métallique.
« Et son fils ?» demanda Holmes.
« Il s'en est sorti lui aussi, mais en gardant de terribles séquelles. Payne a été pendu, évidemment, avec les autres conjurés.
Tenez, voyez cet arbre-là. »
Adams laissa reposer sa canne sur le dessus de la portière. Ils approchaient d'un arbre qui poussait au milieu du trottoir dans un cercle de terre.
Juste ici, en février 1859, le député Daniel Sickles, homme aux mœurs dissolues, joueur, menteur et plus filou même que la moyenne des membres du Congrès, a tué le jeune Philip Barton Key. Incidemment, la victime était le fils de Francis Scott Key, auteur des paroles de notre hymne national.
Sickles avait épousé, après l'avoir séduite, une brune piquante de 15 ans, Teresa Baggioli, et leurs 5 années de mariage furent, disons, explosives, c'est le mot. Sickles était loin d'être fidèle. Il entretenait de multiples liaisons et a même emmené une prostituée du nom de Fanny White avec lui en Angleterre, qu'il a présentée à la reine Victoria pendant que la pauvre Teresa était enceinte. Cela n'a pas empêché qu'il voie rouge en apprenant que Key était l'amant de sa femme. Il l'a intercepté, pauvre homme, ici, sous cet arbre, et l'a criblé de balles.
« Je connais cette affaire, » dit Holmes.
« Sickles a été acquitté. Ses défenseurs ont invoqué un accès de démence survenu à cause de l'infidélité de sa femme. J'ai noté le cas car, pour autant que je sache, c'est la première fois dans un pays anglo-saxon que la folie temporaire justifie un acquittement dans un procès pour meurtre.
C'est bien ça. Sickles s'est offert les services des meilleurs avocats de Washington, Edwin Stanton, devenu plus tard secrétaire à la guerre de Lincoln, et un certain James T. Brady.
Il me semble que Sickles a été blessé pendant la guerre, reprit James qui semblait apprécier cette visite guidée inédite.
En effet, il a perdu une jambe à Gettysburg. Cela ne l'a pas empêché de revenir à Washington dès le lendemain de son amputation, un 4 juillet, voulant à tout prix être le premier, après les télégraphistes du président, à rendre compte de la bataille. On avait critiqué son action de général de brigade et il voulait faire entendre sa version de la déroute avant les autres. Ce qui fut fait.
Sickles était très ami avec Madame Lincoln et lui rendait souvent visite.
« On peut aussi voir sa jambe, si ça vous intéresse. »«
Sa jambe ?» s'exclama Holmes.
« Oui. Quand on l'a amputé à l'infirmerie de campagne en 1863, Sickles a absolument tenu à ce que sa jambe soit conservée et a même fait fabriquer un petit cercueil pour la contenir. Il l'a offerte au musée médical de l'armée à quelques rues d'ici, où elle est présentée dans une vitrine encore aujourd'hui, à côté d'un petit boulet de canon qui, au dire de Sickles, est de la taille de celui qui a emporté sa jambe. Dan Sickles vient en pèlerinage tous les ans en juillet pour voir sa jambe, le plus souvent une séduisante jeune femme à son bras. « Simon, arrêtez la voiture, je vous prie !»
Ils firent une nouvelle halte, et Adams désigna une belle demeure en briques en bordure de la place.
C'est ici qu'en 1859, on a porté Philip Barton Key agonisant. Benjamin Taylor vivait là à l'époque. Il est mort par terre dans le salon et il paraît que son sang imprègne toujours le parquet sous le beau tapis persan qui le recouvre à présent. Les Taylor affirment que le fantôme de Key hante les lieux, ce que confirment les nouveaux occupants.
Et qui vit dans cette maison maintenant ? Demanda Holmes.
Le sénateur Don Cameron et sa femme Lizzie ont acheté la maison en 1886.
Il toucha le dos du cocher avec sa canne.
Simon, nous repartons pour le cimetière.
Adams les avertit qu'il y avait environ 8 kilomètres entre Lafayette Square et le cimetière et bavarda avec Henry James pendant pratiquement tout le chemin, une discussion soporifique portant sur les faits et gestes de leurs amis communs et de divers artistes, peintres et écrivains. Chauffé par le soleil, bercé par le claquement lent des sabots d'une régularité de métronome, Holmes descendit son chapeau sur ses yeux non seulement pour s'abriter de la lumière, mais aussi pour réfléchir en paix. Il s'étonnait du calme de Henry James face à l'attaque enragée de Theodore Roosevelt pendant le dîner de la veille. Au siècle précédent, traiter un homme de lâche et de femmelette les aurait conduits à laver l'affront à l'aube en présence de 2 témoins et armés de pistolets. Holmes n'avait pas cru que James resterait pour le cognac et les cigares. Il s'était attendu à voir l'écrivain s'excuser et rentrer seul à pied à la pension de Madame Stevens. Ce fut au contraire le jeune Roosevelt, de toute évidence mal à l'aise dans la bibliothèque après son inexcusable conduite au dîner, qui fut le premier à s'en aller. Holmes le suivit de près aux alentours de minuit et fut surpris de voir que James restait. Holmes se rappela que James, Hay et Adams étaient de vieux amis. Et pourtant, il fallait être bien magnanime pour leur pardonner d'avoir invité le trublion et de n'avoir ni pris sa défense ni condamné les insultes publiquement proférées. La voiture continua le long de la 14e rue Nord-Ouest, tourna vers l'est dans Harvard Street, roula quelques centaines de mètres, puis tourna de nouveau à gauche sur Sherman Avenue, puis à droite sur New Hampshire Avenue. Holmes se laissa submerger par la lassitude qui le prenait parfois le matin après sa piqûre d'héroïne et se mit à somnoler tout en réfléchissant fiévreusement. Il ne lui restait plus qu'environ une semaine pour résoudre l'énigme de Clover Adams et de l'envoi annuel des cartes, car il devait partir pour Chicago avant la mi-avril. 4 semaines exactement le séparaient de l'inauguration de l'exposition universelle le 1er mai. Il était toujours prévu que le président Cleveland appuierait sur l'interrupteur qui baignerait les lieux de lumière électrique, activerait le mécanisme qui dévoilerait l'immense statue de Saint-Gaudens et mettrait en route les centaines et même les milliers de mécanismes de l'exposition. Pendant ce temps, les câbles envoyés par Mycroft continuaient de confirmer que Lucan Adler, le tueur à gages des anarchistes, devait assassiner le président. Holmes s'aperçut qu'Adam s'adressait à lui.
« Pardon, » dit-il en se redressant sur le siège et en remontant sous haute forme. « Je piquais du nez.
Je vous indiquais simplement ces toits et cette coupole là-bas à droite. C'est la maison des soldats, un domaine où le président Lincoln et son épouse allaient résider l'été pendant la guerre de sécession pour se reposer et bénéficier d'un peu de fraîcheur. « Tout a changé depuis la guerre, » continua Adams. « En 30 ans, Washington s'est étendu et englobe maintenant la maison des soldats et Rock Creek Park. Le cimetière n'est plus très loin. À l'époque où Monsieur et Madame Lincoln venaient ici pour échapper à la chaleur, la campagne s'étendait partout alentour.
Et Monsieur Hay a-t-il aussi accompagné le président ici ? Demanda Holmes.
Adams rit. Très rarement. Lincoln laissait John et Nicolay travailler dans l'atmosphère étouffante de la résidence présidentielle. Hay savait très bien imiter la signature du président et il écrivait beaucoup de lettres à sa place. Je vais peut-être vous étonner, mais beaucoup de lettres célèbres de Lincoln ont été écrites par le jeune John Hay.
« Le discours de Gettysburg, par exemple ?» demanda-t-il. « On raconte qu'il a été griffonné au dos d'une enveloppe. »«
Non, en l'occurrence, »
répondit Adams, amusé sans doute autant par l'incongruité du rire de Holmes que par l'idée que Hay ait pu écrire ce discours. Henry James, chapeau de paille sur la tête pour se protéger le crâne, fit remarquer « Vous avez dû vous ennuyer un peu hier soir, Monsieur Holmes, quand il a été question des peaux rouges, comme vous dites en Angleterre.
Au contraire, je m'intéresse depuis longtemps aux diverses tribus et aux nations indiennes de ce continent.
Avez-vous déjà vu un Indien en chair et en os?
Sans qui, Adams?
Peut-être à Londres, lors de la tournée de Buffalo Bill avec son Wild West Show?
J'en ai rencontré, mais dans des circonstances un peu plus intéressantes.
En fait, les Sioux Oglala m'ont enseigné les rudiments de leur langue, le Yakota.
Il regretta d'avoir laissé échapper cette information dès que les mots eurent quitté ses lèvres.
« Ah tiens !» dit Henry James avec un sincère intérêt. « Racontez-nous un peu ça. »
Se maudissant de s'être trop dévoilé, Holmes chercha comment éviter de raconter l'histoire, mais ne trouva aucune échappatoire.
« Peu après mes 20 ans, commença-t-il, je me suis pris de passion pour le théâtre et j'ai voulu devenir acteur. » Je suis entré dans une troupe, nous avions surtout des pièces de Shakespeare à notre répertoire, et nous sommes venus en Amérique pour une tournée de 18 mois. Nous avons joué à Denver et dans d'autres villes du territoire du Colorado, grossies par la ruée vers l'or, comme Cripple Creek et Central City. Et puis le directeur de la troupe a voulu que, avant de partir pour San Francisco, nous allions jouer à Deadwood, dans le territoire du Dakota, puisque c'était juste à côté, selon ses dires, dans les Black Hills. Vous imaginez bien que pour aller là-bas, il nous a fallu 5 jours de voyage dans un convoi de 6 diligences transportant comédiens, accessoires et décors. Nous avons traversé 2 rivières en crue à la nage en attachant des flotteurs au chariot. Bref, nous sommes arrivés à Deadwood le 29 juin 1876.
4 jours après le massacre de Custer par les Indiens, commenta Adams.
Exactement. Toutes les voies de circulation étaient fermées vers l'est comme vers l'ouest, le nord et le sud.
Et la voie ferrée n'arrivait pas encore jusqu'aux Black Hills, ce qui fait que notre troupe a été bloquée à Deadwood pendant 5 semaines. Nous jouions 5 soirs par semaine, et en matinée le samedi. Mais le matin, je prenais un cheval pour descendre des Black Hills et j'ai ainsi fait la connaissance d'un petit groupe de Sioux Oglala, qui campait près de Bear Butte, la montagne de l'ours, un gros rocher dressé dans la plaine qui est un lieu sacré pour eux.
Il est étonnant que la cavalerie américaine ne les ait pas fait prisonniers. Ou pire, commenta Henry James.
C'est vrai. Il y avait surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Et parmi les anciens, surtout des hommes médecine, que les Sioux appellent des Wikasawakan. Ils étaient venus là plusieurs semaines avant la défaite de Custer à Little Big Horn, ou plutôt, comme disent les Indiens, à la bataille de Greasy Grass, parce qu'ils voulaient parler à un grand homme médecine réputé immortel, mythique assurément, du nom de Robert Sweet Medicine. Ce Robert Sweet Medicine vivait dans une grotte sur la montagne de l'ours. Mais, comme vous pensez, même si ce groupe ne présentait a priori aucun danger, la cavalerie stationnée à Bellefourche avait confisqué toutes les armes. La 50aine de Sioux de ce groupe dépendait donc de la cavalerie pour obtenir de la viande et ils mouraient de faim.
Et pourtant, l'un d'entre eux a pris le temps de vous enseigner des rudiments de leur langue, commenta Adams.
En effet, de mon côté, je leur apportais de la nourriture à chacune de mes visites. Les adultes donnaient tout aux enfants.
Intéressant, commenta James. Dites-nous un peu aussi ce que vous avez appris des cow-boys, des ivrognes, des muletiers, des chasseurs de bisons, des tueurs d'indiens, des bandits, des déserteurs de la cavalerie, des mineurs d'or que vous avez croisés pendant les 5 semaines que votre troupe a passé à Deadwood.
Holmes eut un faible sourire.
J'ai vu qu'ils préféraient de loin Hamlet et Macbeth à Comme il vous plaira, mais que leur pièce favorite était Titus Andronicus.
La voiture tourna à droite, quittant la large et poussiéreuse New Hampshire Avenue, pour entrer dans Allison Street. L'accueillante arche de pierre et de fer forgé du cimetière de Rock Creek surgit devant eux. Tandis que la voiture avançait dans l'ombre intermittente des arbres d'un parc très vert, Adams expliqua que les 35 hectares du cimetière de Rock Creek avaient été paysagés dans le style rural si populaire peu avant la guerre de Sécession. En imitation des cimetières classiques grecs et romains, on avait décidé que les cimetières modernes tels que celui-ci devaient servir à la fois de dernière demeure et de lieu de loisir. Les parents emmenaient leurs enfants pique-niquer et se promener dans le cimetière de Rock Creek le dimanche, affirma Adams.
Clover était une cavalière émérite, rapporta Adams, et nous sommes venus bien souvent faire du cheval dans ce parc.
Nous avons certainement dû passer sur la terre où elle est maintenant ensevelie. »
Cette pensée le fit détourner les yeux et s'abîmer dans le silence. Ils ne croisèrent aucune autre voiture ni aucun piéton. Holmes se doutait qu'il fallait une petite armée de jardiniers pour tondre les hectares de gazon et entretenir les magnifiques parterres floraux, mais il ne vit personne. La voiture s'arrêta au milieu d'une longue et large courbe qui traversait des pelouses parsemées d'arbres et de stèles.
« Si vous voulez bien me suivre, messieurs, » dit Henry Adams.
De grandes zones enherbées séparaient les carrés de sépulture, ce qui évitait la sensation de marcher sur des tombes. Adams préféra prendre une allée goudronnée qui les fit passer sous des arbres, puis traverser d'autres espaces découverts. Les stèles aperçues au passage étaient toutes de très bon goût. Holmes vit qu'Adams se dirigeait vers une haie épaisse et haute, semblable à une muraille, plantée de houx ou d'un autre buisson américain équivalent, qui gardait certainement ses feuilles toute l'année. Adams la leur fit contourner, et ils se trouvèrent à l'arrière d'un bloc de granit d'environ 3 mètres, se dressant sur une base massive, formant 2 marches. Les frondaisons environnantes embrassaient les 2 côtés de la pierre dans leur feuillage.
« C'est là le côté le plus important du monument », indiqua Adams.
Il toucha en passant un emblème gravé dans le granit, 2 anneaux entrelacés de 30 centimètres de diamètre chacun, ciselés d'une guirlande de feuilles de laurier. Le granit était légèrement creusé autour de chaque alliance. Sans s'arrêter, Adams leur fit contourner la pierre et passer entre des buissons hauts de 6 mètres, si denses qu'il ne restait qu'un espace étroit pour se faufiler.
« Prenez garde !» recommanda Adams en franchissant le premier cette sorte de porte dans la végétation.
Le conseil était bon car le gravier cachait un relief de ciment qui séparait le sol du tombeau de la terre du parc. Les 3 hommes montèrent sur une plateforme bordée de pierres et semée de gravier. Ils s'arrêtèrent.
« Grand Dieu !»
souffla Henry James. Même Sherlock Holmes, qui pourtant ne s'intéressait nullement au monument funéraire ni même à la sculpture, en eut le souffle coupé. Il découvrait un espace hexagonal d'environ 6 mètres de large, bordé sur 3 côtés par un muret aménagé en banc, pas en granit comme la statue, mais fait d'une autre pierre. À chaque bout de ce banc, les accoudoirs représentaient un corps ailé de griffon tenant dans ses serres une boule qui leur servait de base. Le banc était idéalement placé pour admirer la statue qui occupait tout un côté de la plateforme. C'était un personnage en position assise, plus grand que nature, homme ou femme, voilé de pied en cap à la manière classique, méditant sur une pierre, appuyé au grand bloc de granit qu'ils avaient découvert par l'arrière. Le drapé recouvrait la tête et l'intégralité du corps, mis à part un visage laissé dans l'ombre et le bras droit nu qui y portait la main. Holmes avança d'un pas pour mieux voir, imité par James.
« Henry !» s'exclama James. « Vous m'aviez bien envoyé des photographies, mais je ne me rendais pas compte. »«
En effet, les photos n'en donnent qu'un pâle reflet, » approuva Adams. « Lindsay Cameron m'en a fait parvenir lorsque j'étais dans les mers du Sud. » Mais ce n'est que lorsque j'ai vu le monument de mes yeux, il y aura 1 an en février, que j'ai ressenti toute sa puissance. Je suis souvent venu m'asseoir ici pour observer les visiteurs qui découvrent la sculpture et les écouter sans que l'on m'entende et sans que l'on me voie. Les commentaires recouvrent tout le spectre imaginable, des plus intéressants aux plus cruellement puérils.
Les rares parties visibles du personnage de bronze étaient androgynes. L'avant-bras dressé, solide, les doigts repliés sous la joue, rien n'indiquait le sexe. Il y avait une perfection pré-raphaélite à la courbe ferme du visage, la force du menton et la ligne droite du nez, mais les yeux surtout, pratiquement clos, méditatifs, les paupières baissées sur leur chagrin, caractérisaient l'œuvre et la distinguaient de toute école artistique, classique ou contemporaine.
C'est comme si ce visage sous la draperie se perdait dans un abîme de pensée,
commenta James. « Quand je suis rentré du Japon avec John Lafarge en 1886, j'ai submergé Saint-Gaudens sous une impressionnante masse de photos et d'images de Bouddha pour l'inspirer », expliqua Adams pensivement. « Lors de mes pérégrinations dans les mers du Sud, je parlais de la sculpture en devenir comme de mon Bouddha, mais le résultat n'a rien d'un Bouddha. »
En effet, songea Holmes, les Bouddhas qu'il avait vus en Extrême-Orient rayonnaient de calme et de sérénité. Or, une profonde impression de tristesse émanait de cette sculpture. Elle reflétait l'absence, le deuil et même le désespoir des sentiments que Bouddha et ses disciples avaient abandonnés pour atteindre l'éveil. Holmes observa que la massive silhouette voilée était assise sur un roc ou un siège grossièrement formé, appuyé à la stèle.
Les pieds, cachés par le tombé du tissu, reposaient sur une large pierre d'un mètre de diamètre placée sur l'épaisse dalle du socle. Les yeux, dissimulés dans l'ombre de l'étoffe, vous suivaient où que vous alliez. Les genoux de bronze, couverts par l'épaisse draperie qui se déployait jusqu'au sol, étaient déjà un peu patinés par le contact des mains des visiteurs.
« L'œuvre a-t-elle un nom ?» demanda Holmes, qui se déplaçait d'un côté à l'autre, sentant toujours sur lui les yeux mi-clos.
Adam s'assit sur le banc en face du monument et croisa les jambes.
« J'aurais voulu l'appeler la paix de Dieu, » dit-il, « mais cela ne colle pas vraiment. Il n'y a pas de paix dans cette sculpture, pas de paix du tout. Mon ami Lafarge, l'artiste, l'appelle « Canon » par imitation des sculptures que nous avons vues au Japon, les mêmes que l'on nomme « Guanyin » en Chine. Pétrarque dirait « Si come ternawita e weder dio ». Le mieux pour un artiste, pour tout vrai philosophe, est d'éviter de nommer les œuvres si cela doit en limiter l'interprétation.
« Les bancs sont aussi de Saint-Gaudens ?» demanda James à Adams.
« Non, de Stanford White, qui a aussi conçu le décor végétal et qui s'est encore plus éloigné de mon inspiration orientale que Saint-Gaudens. Les ouvriers de White ont couvert le chantier d'un chapiteau pendant plus d'un mois pendant l'hiver 1890. » Mais les ailes de griffon n'ont plus rien à voir avec le bouddhisme traditionnel de Shakyamuni que nous avions en tête en revenant du Japon. Il n'empêche que je considère cette œuvre comme la plus belle de Saint-Gaudens. Ce grand artiste y a mis toute son âme.
Se tournant de nouveau vers la sculpture pour la contempler, James ajouta
« Et Saint-Gaudens lui a donné un nom ?»
Il en a proposé plusieurs. Son préféré à ce jour, d'après ce que je sais, est le mystère de l'au-delà, tout en sachant que cela ne convient pas. Le vrai langage de Saint-Gaudens, c'est la pierre. Il ne sait pas tailler les mots.
Je suis celui qui doute. Je suis le doute même.
Récita James.
Voilà, c'est exactement cela,
approuva Adams.
D'où vient la citation ? Demanda Holmes. Du poème Brahma d'Emerson.
Répondit Henry James, qui continua.
Si le tueur rouge croit avoir tué, ou si la victime se croit assassinée, c'est qu'ils ignorent les voies subtiles que je pratique pour passer et revenir. Le lointain, l'oublié me sont proches, l'ombre et la lumière me sont une, les dieux évanouis m'apparaissent, la honte et la gloire me sont une. Ils se trompent quand ils croient m'abandonner. S'il passe près de moi, je suis les ailes. Je suis celui qui doute, je suis le doute même. Je suis l'hymne que chantent les brahmanes. Les dieux puissants aspirent à mon séjour, et les sept languissent en vain. Mais toi, tendre amant du bien, trouve-moi et tourne le dos au ciel.
Holmes hocha la tête.
« Quand j'étais en Inde, dit Adams, et que je me suis assis pour méditer sous l'arbre de la Bodhi, qui est bien maigrichon aujourd'hui, pour nos temps modernes. J'ai écrit moi aussi un poème dans lequel j'ai essayé de restituer ce moment vraiment métaphysique. J'ai échoué encore plus lamentablement qu'Emerson.
Dites-nous votre poème, Henry,
pria James. Adams commença par secouer la tête, mais soudain, il ouvrit les bras pour les poser sur le dossier du banc et récita doucement.
La vie, le temps, l'espace, la pensée, le monde, l'univers, finissent là où ils commencent, par une seule pensée de pureté dans le silence.
Il acheva par un éclat de rire sonore qui fit sursauter James et Holmes.
« Veuillez m'excuser, dit-il, mais le poème d'Emerson me fait penser à une lettre que Clover a écrite à son père au cours de l'hiver 1880, je pense. » Je devrais pouvoir vous restituer le passage fidèlement. Une vraie tempête de neige comme autrefois. Nous avons sorti la luge et lugeons en riant comme des forcenés. Si le lugeur rouge croit avoir lugé, comme disait Ralph Waldo Emerson, il faudrait nous envoyer son lugeur à Brighton Road pour lui montrer comment l'on fait.
Holmes et James eurent un rire attendri. Puis, croisant le regard de Holmes, James annonça
« Je vais faire un tour entre les tombes. Je n'en ai pas pour longtemps. »
Dès que James se fut faufilé à travers la végétation, Adams dressa la tête et lança
« Parfait. À présent, monsieur Holmes, j'ai deux mots à vous dire.
Je sais parfaitement ce qui vous amène, Holmes, déclara Adams. Je sais pourquoi vous êtes venu à Washington en traînant ce pauvre Harry avec vous.
Et vous a parlé ?
S'appuyant des deux mains à sa canne, Holmes se pencha vers Adams, toujours assis sur son banc.
« Non, il ne m'a encore rien dit. Mais il le fera.
John ne me laisserait jamais me ridiculiser ou me faire manipuler longtemps. Nous sommes plus que des amis. Nous sommes des frères. »
Holmes hocha la tête, se demandant ce qu'Adams savait au juste.
« Je n'ai pas eu besoin de lui pour comprendre que vous étiez venu résoudre ce fameux mystère des cartes envoyées aux derniers membres des Cinq de Cœur le jour anniversaire de la mort de Clover.
Alors, vous voulez savoir si j'ai trouvé l'expéditeur ?
C'est cela !»
Le ton sec claqua comme un coup de fouet dans l'air doux.
« Je ne l'ai pas identifié, mais je sais que les Bristol ont été tapés sur la machine à écrire de Samuel Clemens. »
J'ai étudié la liste des invités des Clemens entre Noël 1885 et décembre 1886. Les cartes ont toutes été tapées pendant cette période.
Et vous avez repéré quelques noms possibles ?
Rebecca Lorne et son cousin Clifton ont passé une nuit chez les Clemens cette année-là. Ned Hooper aussi. Et puis tous les autres cœurs, sauf Clarence King. Vous y êtes allé, vous aussi, monsieur Adams.
Adams eut un bref hochement de tête.
Vous soupçonnez Rebecca Lorne ?
Holmes sortit une photo de sa poche et la tendit à Adams. C'était une page du programme d'un opéra polonais et la photographie qui l'illustrait était celle de la cantatrice et actrice Irène Adler.
Cela lui ressemble,
admit Adams.
C'est difficile à dire avec son maquillage de théâtre et sa coiffure extravagante. Mademoiselle Lorne était une femme discrète.
C'est bien la même personne.
Et après ? Cela ne résout nullement l'énigme.
Comment avez-vous appris la raison de ma visite à Washington si ni Hay ni James ne vous l'ont révélé ?
C'est Ned Hooper lui-même qui a vendu la mèche, je présume.
Adams eut un sourire, lui rendit la photo, puis croisa les bras.
J'aimais énormément Ned Hooper et j'ai été très affecté par la nouvelle de sa mort en décembre dernier. Ned venait me voir presque tous les ans et me priait instamment de faire intervenir les autorités pour éclaircir ce mystère des cartes de visite du 6 décembre. Il y a 2 ans, le jour de l'an, il a promis, menacé, d'aller à Londres pour engager le fameux détective Sherlock Holmes si je n'acceptais pas.
Et quelle a été votre réaction ?
Je crois lui avoir répondu que le célèbre détective Sherlock Holmes était un personnage de fiction.
Holmes hocha la tête. Les deux hommes gardèrent le silence un long moment. À l'extérieur de leur refuge isolé par le feuillage, monta un bruit distant de sabots et d'une voiture qui roulait sur l'un des longs chemins sinueux du cimetière.
« Ma très chère femme s'est donné la mort, monsieur Holmes, » dit enfin Adams à voix basse. « C'est pourquoi je ne la mentionne plus par écrit depuis 7 ans et n'en parle qu'à mes amis les plus proches. »
« Et pourtant, aujourd'hui, vous en avez parlé très librement, » remarqua Holmes.
« C'est parce que aujourd'hui, je veux vous demander d'abandonner cette enquête inutile, de rentrer en Angleterre et de me laisser en paix avec mes souvenirs !»
Les mots fusèrent avec la force et la cadence d'une mitrailleuse Gatling.
« Je me suis engagé vis-à-vis de mon client. »
Adams lâcha un rire désabusé.
J'aimais beaucoup Ned, monsieur Holmes, mais il était atteint de cette même folie dont souffraient Clover et leur père et tant d'autres membres de la famille Hooper. On ne peut pas le leur reprocher, mais Ned était autant prédisposé que Clover au suicide. Votre fameux client était la proie de graves accès mélancoliques. Seriez-vous toujours aussi enclin à continuer si je vous disais que toutes les fausses pistes que vous ferez surgir dans votre enquête me feront plus souffrir que si vous me forciez à avaler du verre pilé?
« Je n'ai aucune intention de nuire, ni à vous, ni à personne. Je n'en veux qu'au responsable de... »«
Au diable, vos intentions ! Vous ne comprenez toujours pas ! C'est Ned Hooper lui-même qui a tapé ses cartes lors d'une visite chez Clemens en 1886 ! Ned, qui s'est arrangé pour introduire les enveloppes dans le courrier des membres des Cinq de Cœur le 6 décembre de chaque année !»«
Vous l'a-t-il avoué ?» demanda Holmes, qui envisageait depuis longtemps cette hypothèse.
Seule la découverte qu'Irène et Lucas Nadler avaient fréquenté Clover Adams pendant les derniers mois de sa vie l'avait convaincu du contraire.
« Non, il ne me l'a pas dit explicitement. Mais Ned était un être instable, fragile, prêt à se briser au moindre choc. Et le suicide de sa sœur lui a porté un coup fatal. La mort de Clover ne s'explique pas, Monsieur Holmes. Son geste n'a de logique que de son propre esprit troublé et de son désespoir. Ned était incapable d'admettre qu'une personne qu'il aimait tant disparaisse sans raison.
Possible. Mais dans le cas présent, les soupçons de Ned semblent avoir été davantage éveillés par des agissements inquiétants que par une humeur triste. La véritable identité de Rebecca Lorne et de son cousin Clifton conduit à penser que Adams l'interrompit net.
« Je vais vous faire une proposition, Monsieur Holmes. »
Holmes attendit la suite.
« On dit que vous êtes le maître de la déduction, le plus grand détective au monde. Mais jusqu'à présent, personne, pas même Harry, n'a pu constater chez vous la moindre manifestation de vos formidables pouvoirs. »«
Vous voulez que je vous prouve ce dont je suis capable ?»«
Oui. Je vous propose de résoudre une énigme. » »«
Pas l'énigme des cartes du 6 décembre. » »«
Non. Celle que j'ai concoctée pour vous. » Trouvez la réponse avant 17h demain et vous pourrez rester. Je vous apporterai même mon concours dans votre enquête. En revanche, si vous ne trouvez pas, il va falloir me donner votre parole de gentleman que vous quitterez cette ville et ce pays et que vous oublierez ce faux mystère de la mort de mon épouse à tout jamais. Vous acceptez?
Allez-vous me mettre un peu sur la voie?
Non. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, vous trouverez vous-même quel est le mystère grâce à votre don d'observation et vous le résoudrez à l'aide de votre sens de la déduction d'ici à demain après-midi. Dans le cas contraire, vous nous direz adieu et me laisserez tranquille.
Holmes souleva sa canne et en tapota le pommeau sur son épaule droite pendant quelques secondes. Il répondit finalement
« J'ai une autre tâche à terminer qui m'empêche de rentrer à Londres. » Mais j'accepte de quitter Washington et de ne plus m'occuper de la mort de votre femme si j'échoue.
Adams hocha la tête.
Alors, c'est entendu. Si vous ne résolvez pas l'énigme pour 17h demain, vous quitterez Washington et vous me laisserez en paix.
Les deux hommes restèrent face à face en silence, mais sans vraiment se voir. Le retour de Henry James à travers le feuillage les fit sursauter.
« J'ai raté quelque chose ?» demanda James.